Livre son, Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son, avec la suite de notre entretien avec Étienne Dao. Dans la première partie, la semaine dernière, nous avons parlé avec lui de son enfance en Algérie, puis de son arrivée en France et de ses allers-retours fréquents adolescents en Angleterre, à Manchester et à Londres. Dans cette deuxième et dernière émission qui lui est consacrée, on en arrive à ses premiers pas sur scène et aux enregistrements de ses albums. Cet entretien avec Étienne Dao a eu lieu dans le nord de Paris, dans un bureau de son ancien label Warner. Il est arrivé avec la discrétion et le calme qu'on lui connaît. Il s'est assis, privilégiant une certaine distance, un peu caché derrière ses lunettes de soleil sur le nez, a demandé à boire un thé. Et puis, au bout de quelques minutes, la parole s'est montrée plus libre. Il a retiré ses lunettes, les a posées, et s'est mis à parler avec profondeur et sincérité, en conservant une légèreté et un sourire omniprésent. Étienne Dao dans Pour un oui, pour un son, deuxième partie, c'est maintenant.
Bonjour, c'est Étienne Dao dans Pour un oui, pour un son.
Pour un son.
Une date importante, c'est le 18 décembre 1980. Premier concert digne de ce nom, c'était la deuxième des Transmusicales de Rennes. Vous montez sur scène, vous jouez une vingtaine de minutes, quatre titres qui figureront sur le premier album. C'était quoi l'état d'esprit à l'époque?
Je sais même pas si on peut appeler ça un état d'esprit.
C'était quoi le...
Moi je sais pas, on était ivre mort surtout, le groupe, état, moi, puis les gens dans la salle. C'est pour ça que tout le monde a trouvé ça très bien.
C'est vrai, complètement ivre.
J'avais tellement peur, j'ai bu, donc j'avais le hockey, donc tout le monde disait, le pauvre, il a le track, il a le hockey parce qu'il a le track et tout ça. En fait non, j'étais complètement ivre.
Ça a été plaisant quand même, je parle pas pour le public du coup. Mais pour
oui,
vous.
Parce que c'était une fête, tout ça était. J'avais pas de projet de carrière. Donc c'était au Transmusical, donc dans un, chez moi, donc à Rennes. Il y avait que des potes qui avaient fait un groupe et qui jouaient ce soir-là. C'était une espèce de grande fête générale. Donc, l'état d'esprit, c'était un état d'esprit festif. Il y avait à l'époque Guerque Marquis de Sade qui avait enregistré un disque. Donc, il n'y avait pas de plan de carrière et tout ça, c'était vraiment se faire plaisir. Et puis, par contre, ça a débloqué des choses parce qu'il y avait plein de journalistes qui sont venus de la presse spécialisée de l'époque, Best, Rock and Folk et tout ça, actuel, et qui ont reporté ce concert. Et donc, le fait que c'était plutôt assez gentil pour moi, malgré le hockey. J'ai signé assez vite, j'étais le premier artiste Virgin France.
Alors ça, incroyable, quand même, vous qui adorez l'Angleterre. Virgin arrive en France, vous êtes un des premiers à signer chez
le eux. Premier.
Le premier. Le premier. Ça a dû être.
Oui, c'était.
Un grand plaisir.
Je pensais au départ qu'il allait me signer pour un 45 tours et en fait c'était un album. Donc j'ai ramené Marquis de Sade et Jacquenot, qui étaient mes amis, pour faire ce disque. Ça a été un record d'un vendu, on a dû en faire 2000.
Oui, mais
que ma mère a dû acheter.
quelques années plus tard, il y a eu un succès de manière rétroactive.
Oui. Je crois qu'on était vraiment une génération qui n'avait pas du tout de plan de carrière. On n'avait aucune idée de ce que c'était que le business. On n'avait pas d'avocat. On a signé des contrats absurdes. Je pense que quand j'ai signé, j'ai signé pour un montant de 4% du gros. Donc sur 2000 albums, je laisse imaginer la fortune. Ouais. Non, mais j'ai crevé la dalle pendant des années. Hein. C'était. Mais je m'en foutais. J'étais dans. Quand tout d'un coup j'ai compris que c'était ça, parce que je le savais intuitivement, mais je n'osais pas du tout me l'avouer, une fois que ce premier album est sorti, ça m'a quand même aiguillonné. Je me suis dit, ce serait bien d'en faire au moins 6000 cette fois-ci.
Entre nous deux, c'est la guerre. Notre histoire qui se traîne par terre. C'est la haine et c'est la bataille. Enfin bref.
Peut-être que toute ma vie se trouve dans cet album, que tout y est déjà dit, vous avez déclaré un jour, dans l'album Mythomane.
Oui, enfin, je crois que tous les artistes disent ça, c'est-à-dire qu'on met
du premier album. Oui, on met.
On essaye de je pense faire qu'on pour les fondations de chaque artiste, c'est le premier album, et puis après, on décline, on mûrit, on mature ce qu'on a à dire.
Mais je pense qu'on
a une problématique de base qui est la même à travers le temps, et qu'on la façonne, on la transforme, on met un éclairage différent.
Une des chansons, pourtant, vous dites « il ne dira pas » et vous déclinez tout ce que vous ne direz pas.
Ah non, mais elle est folle, cette chanson. En fait, je me suis rendu compte, après, longtemps après, elle est presque comique parce qu'elle liste, c'est le catalogue de tout ce dont je dis que je ne parlerai pas. C'est quand même dément.
Et vous avez parlé de tout.
Quasiment. Non, je me laisse quand même un petit peu des choses pour les prochains disques. Il faut un peu de matière.
Pour un oui, pour un son.
Quand vous ne chantez pas sur un album, vous en produisez parfois. On va écouter Loudoyon. Vous avez produit Places. 200 000 albums vendus quand même, un peu plus même. Gros succès. Là aussi, la rencontre, ça s'est fait comment? Et l'envie de produire ce disque?
C'est sa mère qui m'a dit, tu devrais écouter Lou. Je connaissais surtout Charlotte, avec laquelle j'avais chanté aussi en duo, qui s'appelle If. Et Lou, je la connaissais pas très bien. En fait... J'arrivais pas à trouver comment l'accrocher, je la trouvais étrange en fait. Étrange dans le sens pas d'affinité. Et puis un jour, Jane m'a dit, tu devrais écouter les chansons de Loulou. Et quand j'ai vu Lou justement à l'anniversaire de Jane, on s'est croisés dans le hall de chez Jane comme ça, et c'était un moment un peu compliqué pour elle. C'était un moment difficile. Et tout d'un coup, j'ai trouvé qu'elle... Elle a lâché quelque chose qui m'a vachement touché. Et je lui dis, j'aimerais bien écouter tes chansons, parce que Jane m'a dit que tu écrivais et tout. Elle m'a dit, ok, on a pris rendez-vous, j'ai écouté ses chansons, et quand j'ai entendu sa voix et les compositions, je me suis dit, mais comment sait-il que personne d'autre n'ait vu ça? Donc je lui ai proposé de faire des maquettes, comme ça, d'une manière assez libre. Je lui ai dit, voilà, on essaie, si ça marche pas, bah, tant pis. Et puis tout de suite, elle a eu confiance, c'était très très beau la manière dont elle a ouvert. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui est un peu difficile à attraper. Elle avait déjà fait des expériences qui s'étaient pas très bien passées musicalement. Donc elle était très, très inquiète qu'on touche à sa musique et tout ça. Et en fait, ça s'est très bien passé tout de suite. On a fait le disque sans s'en rendre compte. Avec un extérieur, les gens à l'extérieur étaient assez hostiles. Ils me disaient, mais pourquoi Loudoyon ? On comprend pas, pourquoi ? Je leur disais... Vous allez voir, c'est très bien. Et je faisais écouter comme ça, malicieusement, sans dire qui c'était, à des gens, et ils trouvaient ça très bien. Et donc je suis allé au bout du truc, en fait. J'ai produit le disque, et puis après, on a trouvé une maison de disque. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut toujours... généralement, c'est comme ça que je procède. C'est-à-dire que je vais très très loin dans la production du disque, parce que je crois qu'il y a une vision à avoir, comment proposer les choses, et ensuite... Ensuite, quand je trouve l'adhésion d'une maison de disques qui est structurée, parce que moi je suis pas structuré, c'est vraiment je finance, et puis après je veux pas m'occuper des choses. Je suis pas un businessman. Hein.
Je propose qu'on écoute un extrait de cet album, de Loudoyon.
So many questions, but many less answers. I seem to leave from doubt to doubt, like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I'll end when I'm back where I began. Just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't pretend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. Mm-hmm.
some certainties to easing up the pain. Give me some truth there to stand so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find me something to keep to help me sleep. But I wonder, maybe you wonder too. And in fact, I'm just like the rest. And if that's the case, then maybe I found the one thing that's true. This common doubt that you nice that makes us come looking for you. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I'll end when I'm back where I began. Just like this recurring dream that I used to hear. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers.
Pour un oui, pour un son.
Bonjour, c'est Étienne Daoud dans Pour un oui, pour un son.
Étienne Daoud en 1984 sort La Note et la Notée avec Weekend à Rome, énorme tube, Le Grand Sommeil sortir ce soir. Vous dites à l'époque, j'ai pris conscience tout d'un coup que chanter et écrire était vraiment ma vocation.
J'en rêvais depuis longtemps et j'osais pas le dire en fait.
C'est le succès qui vous a conforté, qui vous a rassuré de Weekend à Rome?
Dès que je me suis retrouvé en studio vraiment avec Jacques No, même si à l'époque je la ramenais pas trop parce que comme c'était Jacques No, Marquis de Sade, je les laissais un peu officier. Mais après, j'avais une idée très précise. Dès le deuxième album, je...
Donc c'est dès l'écoute. Vous avez dit ça, c'est... je suis content, je suis arrivé à...
Non, j'ai senti, même si c'est l'album que Franck Darcel a produit, j'avais une idée beaucoup plus précise de ce que je voulais. Et donc, à l'époque, on était un peu dans un trip un peu électropop, new wave et tout ça. Donc, j'avais envie d'essayer ça. Comme je vous disais, je voulais pas faire de rock. Donc c'était une voie pour moi que j'aimais bien creuser. Et ça n'a pas été vraiment des tubes. Hein. C'est vrai qu'au Canarum, mais pas vraiment. Pas à l'époque. Enfin, disons que ça. Avec le temps, c'est une chanson importante. C'est une chanson presque qui me symbolise, étrangement. Parce que c'est une vraie chanson très légère. Mais à l'époque, ça n'a pas été. Enfin, en vente, je ne me souviens pas que c'était un gros tube.
Les radios ont joué le jeu.
L'album a été disque d'or. Et puis surtout, j'avais une presse complètement démentielle.
Sans personne, Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end, l'État.
bagnole de fortune. Variette Mélo à la radio, week-end brutal. Paris est sous la pluie. Bonheur, soupir, chanson.
Et puis l'après premier tube, c'est souvent difficile, certains ne s'en mettent pas. Et vous, avec Tombé pour la France, 20 000 singles qui se vendaient au départ quotidiennement.
Par jour, ouais. Ça paraît dingue aujourd'hui.
Oui, surtout aujourd'hui.
On fait plutôt ça en un an, j'en suis. Oui, c'était des années comme ça. J'ai épousé l'époque où l'époque m'a épousé. Et puis j'étais sur une planche de surf, c'était comme ça. En une nuit, quasiment. Tout d'un coup, je suis devenu très connu.
Et le mariage a duré?
Oui, avec des moments de friction, mais ça... En tout cas, la musique, c'est tellement la chose la plus importante de mon existence, c'est vraiment dans chacune de mes cellules. J'y mets tout, quoi. Voilà.
Il y a eu presque un excès, vous dites d'ailleurs, à une époque, le côté d'Aomania, c'est à l'époque de Pop Satori. Il y avait quand même un malentendu qui commençait à vous peser. C'était trop ou c'était votre image aussi?
Je suis quelqu'un de très privé et j'adore qu'on me foute la paix, en fait. Et donc, tout d'un coup, quand on devient le petit jeune homme à la mode, le chef de file de la pop française, que tout d'un coup, il y a un truc qui est terrible. C'est un monstre qui arrive dans votre salon et qu'il faut apprivoiser et qu'on ne veut pas voir. Mais bon, il y a de très bons aspects dont j'ai largement profité aussi. Hein. Donc là, je ne veux pas noircir le portrait.
Non, mais
c'était vrai que je trouvais que c'était difficile par rapport à mon travail, surtout. Après, pour le quotidien, je m'en accommodais, je sortais beaucoup.
C'est le côté public qui vous gênait, qu'on vous reconnaisse? Ou intrusif des journalistes, des questions de
recherche?
Je ne sais
pas si j'étais fait pour être...
Exposé?
Exposé, voilà. Ça m'a coûté, en fait. Ça m'a coûté d'être exposé, j'ai trouvé que c'était difficile.
C'est pas
ce dont j'avais rêvé, je voulais faire des disques, je voulais faire de la musique, mais tout d'un coup, ça a pris des proportions. Il m'a fallu du temps pour m'habituer à cette popularité, c'est arrivé très brutalement, finalement.
Et en même temps, vous dites que vous sortiez, on aurait pu penser que vous auriez pu rester chez vous.
Non, je compensais parce que c'était une grosse pression, donc je travaillais beaucoup dans la journée, mais le soir, il fallait que j'aille
faire
n'importe
fête.
Quoi. Il fallait que j'aille décompresser.
Gros, c'est le décompressé qui...
oui, c'était un terme léger pour dire, c'est un terme light pour
dire
résumer un peu ma vie de l'époque.
M'avez-vous déjà vu quelque part? Rafraîchissez-moi donc la mémoire. Extasié devant une toile de Vincent à Rome, notre reine. Vous m'appelez Étienne, cherchant le magicien et sa dose. New York, Café Reggio, je suppose. En plein cœur de l'ivresse, au milieu du chaos, accoudé à un bar, vous m'appeliez. Vous en avez de bonnes à Lisbonne, de Salas à Paname, Amsterdam. Était-ce une quille ou un glaçon, va savoir. Dans le noir, dans le ton, quel que soit l'abandon, pourvu qu'il soit le bon. Sur d'experts toboggans, vous m'avez vu glisser, mais c'est glisser avec délice. Certes. Et ma ligne de fuite s'est brisée pour me mettre à la colle, 22 étés. J'abandonne aujourd'hui mes attractions désastres. Et tu viens avec moi faire l'avion.
Et puis il y a eu Paris ailleurs, album qui porte bien son nom. Gros carton, tourné dans 14 pays. C'est très rare pour un artiste français qui chante en français. Avec le recul, comment vous expliquez ça?
Je sais pas. C'était une production que j'avais fait à New York. Et qui sonnait assez international, même si c'était en français. Donc c'est un disque qui a vraiment bien marché dans plein d'endroits, vraiment en vente, quoi. Donc tout d'un coup, on s'est dit super, on va voyager un petit peu. Et donc j'ai fait, c'est vrai que 14 pays, c'était beaucoup, c'est-à-dire que c'était tout concentré. Donc on arrivait le matin, je faisais la promo, je chantais le soir, on repartait le lendemain, ou la veille, ou après le concert en bus, enfin c'était une vie un peu folle, quoi.
Épuisant.
Oui, bien sûr. Parce que, bien sûr, en plus des disques, des tournées, de la promo, des concerts, ça, il y avait aussi mon travail de producteur pour les autres, que je faisais dans les intervalles, donc j'arrêtais jamais. Plus pas dormir, plus faire n'importe quoi, enfin bon, je cumulais un peu les risques.
Vous êtes un peu hyperactif? Ou c'est une envie saine de faire plein de choses?
Alors je crois qu'il y a... Je sais pas, j'arrive pas à savoir en fait. Je crois que j'ai la chance qu'on me sollicite et qu'on me propose des choses qui m'intéressent et que j'ai pas envie de rater. Et donc je fais. Donc...
Mais ne rien faire, ça vous ferait peur ou...
Bah, je sais pas, ça m'est jamais arrivé en fait.
Donc vous avez répondu à la question.
Peut-être que ça va me terrifier, ça va être le genre le gouffre et que je meuble avec beaucoup de travail, un vide sidéral.
Tout de suite, on écoute Sarah Cracknell avec la version originale du premier jour du reste de ta vie, ça s'appelle Ready or Not.
I saw you from across the street, called to your friends. I haven't seen you smile all week. I know something's wrong. I went and bought another book. I'll lend it to you. Maybe we should get some food. I don't think you should be alone. This is the morning of another day, and you kiss another dream away. Said you're off to fight the cause in your own time. You're always trying to change the rules. I know something's wrong. I got myself another job in the same town. Me and Scott, we got engaged. Didn't and you never could. Like it or not.
En tout cas, la musique, c'est tellement la chose la plus importante de mon existence. C'est vraiment dans chacune de mes cellules. J'y mets tout, quoi.
Pour un oui, pour un son.
Bonjour, c'est Étienne Daoud dans Pour un oui, pour un son.
On a parlé de l'album La Note tout à l'heure. Le titre était un hommage au cinéma italien, un clin d'œil à Antonioni. Vos chansons étaient très souvent, c'est une particularité aussi, utilisées par le cinéma dans des films,
oui.
BO. On va écouter quelques extraits de films et des chansons qui y sont associées.
Moteur.
Déjà. Je suis avec vous toutes les nuits sur Nuit de Chine, l'émission où tout peut arriver, tout peut être dit. Tout.
Je me raconte des histoires. Et alors?
This is the writing of Nagiko Yuchikino. And I know you to have blackmailed, violated and humiliated my father. I suspect you also of ruining my husband. You have now committed the greatest crime. You have desecrated the body of my lover.
Vous faites quoi là? Une bronze. Moi je vous conviens, je me pense si. Pourquoi qu'est-ce qu'il a ton flip? Il y a des Pokémon?
Déjà quatre hivers à nous savoir que faire.
Il y a des cadeaux, qu'est-ce qui se passe? L'anniversaire de maman, t'avais oublié?
Quand il y a plus de bougies que de gâteaux.
Rassure-toi, t'es pas invité.
Évidemment, ça se passe pas comme je voulais. Je pensais pas que ça serait si dur. Pourtant, je m'entends plutôt bien avec les collègues. Une bonne ambiance, quoi. Même ça, c'est pervers.
Vous nous en faites des petits-enfants?
Oh non, hein? On a décidé de sauter une génération.
Plaisantez pas avec ça. C'est important, vous avez une famille.
Vendredi 3 décembre 93. Le premier jour du reste de ma vie.
Mais tout peut changer aujourd'hui. Est le premier jour du reste de ta vie. Plus confidentiel.
Je me raconte des histoires. Et alors?
Pour un oui, pour un son.
C'est bien, hein?
C'est de vous.
En tout cas, puis, les chansons. C'est vrai que je ne me rendais pas compte. Enfin, c'est vrai que de les écouter comme ça, les unes après les autres, c'est impressionnant, parce que c'est des bonnes collaborations, quoi. C'est vraiment. En plus, là, c'est pas des scores que j'ai écrits pour
non,
le cinéma.
C'est, hein, c'est vos chansons.
Des chansons qui, tout d'un coup, illustrent.
Et souvent en décalage, comme on le disait pendant qu'on écoutait. Gaspard Noé, film avec des scènes horribles de violence sur Mon manège à moi. Le film de Laurent Cantet, très sombre aussi, L'emploi du temps avec Weekend à Rome. Mmh. Étrange, on vous utilise parfois pour apporter de la légèreté sur des sujets sombres. Ouais. Et puis Le premier jour du reste de ta vie, là on joue vraiment l'émotion des paroles et du film. Vous avez quasiment tout reconnu, il y a eu Désordre, Olivier Assayas, Fréquence meurtre d'Elisabeth Rapneau, Quatre hivers, c'était pour Tout contre Léo de Christophe Honoré. Un film de Peter Greenaway aussi, The Pillow Book, Absolutely Fabulous, la version française de Gabriel Aguillon, une histoire d'amour d'Hélène Filière.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve. Effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir.
Un moment important, c'est le 17 juin, il y a des dates, 1994, vous êtes mort, Étienne Daho.
Oui, c'est vrai.
Vous vous rappelez?
Oui.
Ça doit faire drôle.
Moi, je m'en souviens très bien, oui. C'est l'année où j'ai le plus travaillé.
C'est vrai?
Oui.
Comme quoi, ça vaut le coup de mourir. Incroyable rumeur, à l'époque.
Ouais.
On vous dit mort.
Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'on sait d'où ça part ou...
Bah, le principe d'une rumeur, c'est qu'on ne sait pas d'où ça part, et surtout, on ne sait pas quand ça s'arrête.
Ça aurait pu être une boulette d'un journaliste ou quelqu'un de malveillant dans le...
Alors, il y a plusieurs écoles. J'avais organisé un disque dont les fonds étaient destinés à la recherche contre le sida. En 94, qui s'appelait Urgence. Je trouve que le titre était atroce. J'étais contre la pochette et le titre. Et j'avais réussi à convaincre, non sans mal à l'époque, 27 artistes pour qu'ils puissent contribuer à ce disque. Au départ, c'était genre, il y avait un truc d'image, non, on ne veut pas être associé, tout ça. Et on a quand même ramené 12 millions de francs à l'époque à l'Institut Pasteur. J'ai remis un chèque au professeur Montagnier, ce qui était vraiment quelque chose qui était important pour moi, de m'impliquer comme ça. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont considéré que cette implication... Elle n'était pas anodine, que si je m'impliquais comme ça, c'est qu'il n'y avait pas fumé sans feu, etc., etc. Et ça a commencé de manière un peu insidieuse. Je ne m'en suis pas rendu compte, j'étais en Angleterre à l'époque. Et je commençais à avoir des coups de fil un peu bizarres. Ma mère qui me disait « Alors ça va ?» Je disais « Oui, ça va. » Et puis bon, il y avait un truc qui était en train d'enfler comme ça. Et puis tout d'un coup, je suis mort. Voilà.
Et vous n'êtes pas venu à la télé comme d'autres l'ont fait pour dire
non,
tout va bien, je suis vivant.
Bon, il n'y a pas de bouquin qui vous permet de savoir comment est-ce qu'on réagit dans un cas comme ça. C'était la première fois que ça m'arrivait de mourir comme ça brutalement sans qu'on m'ait averti. Donc j'étais un peu désarçonné quand même.
Mais vous avez prouvé que vous étiez très en forme encore et toujours avec l'album Résurrection.
Bah, je trouvais que le titre était drôle, je trouvais que c'était une preuve de bonne
là,
santé quand même. Et puis j'avais mis en scène, enfin, d'une manière un peu perverse, avec Pierre et Gilles, l'image de la pochette où je suis ensanglanté dans l'herbe, allongé par terre, avec Marie-Madeleine qui me soutient. Ce disque que j'ai fait avec Saint-Étienne, qui était une récréation. Mais c'était un drôle de moment, parce qu'en fait, c'est une symbolique, la mort, en fait. Et symboliquement, peut-être que je suis mort à ce moment-là. Il y avait aussi, j'avais une vie extrêmement dissolue. Donc, quand on dit, je suis pas mort d'un ongle incarné, quoi. C'était le sida, donc sida, c'est drogue, sexualité, tout ça. Effectivement, j'aurais pu vraiment faire partie des victimes, bien sûr. Mais je suis pas, justement, pour continuer, je suis pas allé à la télé, justement, parce que je trouve d'abord, ça me faisait hyper chier d'être contraint d'aller montrer mon bulletin de santé à la télé. Je trouvais que c'était vraiment odieux, parce que la santé, c'est un truc assez privé. Et puis j'avais autour de moi des gens qui, malheureusement, étaient touchés, ou étaient morts, ou étaient malades. Et je trouvais que c'était très compliqué pour moi de venir à la télé, de dire « Non, non, j'ai rien, tout va bien, c'était pas possible. » Enfin, je veux dire, on peut pas. Donc, ça se trouve, ça m'aurait facilité la vie, parce que ça a duré très très longtemps, cette rumeur, au moins 10 ans. Ouais.
Mais viens. Ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Et puis l'album Eden après.
Oui. C'était une période londonienne qui était vraiment, justement, c'était une période qui était supposée être très noire à cause de tout ça. Pour moi, c'était une période de reconstruction. C'est important quand on commence à avoir de la durée comme ça, de se remettre en question, d'arrêter de faire des vrais arrêts et de dire, voilà, de retester son envie, de retester sa créativité et puis de se ressourcer, d'avaler un autre monde. Et à Londres, je trouvais que c'était parfait pour... comme d'habitude, hein, c'est vraiment mon refuge pour trouver...
capter ça.
Oui, pour être, touché par autre chose, que ça déclenche des choses, que ça m'inspire différemment, pour pas refaire la même chose.
Je suis fidèle à ma vie, avez-vous dit dans mes chansons, je n'ai pas l'imagination d'inventer d'autres histoires.
Bah oui, c'est vrai.
Du coup, vous dites beaucoup.
Bah je dis tout.
L'air de rien.
Mais personne n'a l'air de s'en rendre compte.
Mais c'est ce que
grave.
Je disais dans l'intro, c'est étonnant. On vous dit discret, timide, si on écoute vraiment.
Mais je suis forcément le moins discret des gens que je connais. Hein. Après, il n'y a pas les noms, les numéros de téléphone. Mais...
Est-ce que c'est facile et plaisant la composition? Ou pour vous, c'est plutôt complexe, douloureux?
La musique, la musique me vient très facilement. Je compose de la musique toute la journée, comme ça. Quand j'arrête de parler. Musique me vient tout de suite. J'en ai plein toute la journée. Je pourrais, j'espère que bientôt on pourra brancher un truc
directement
dans la tête,
des électrodes,
qui pourra tout enregistrer. Puis il y a des tas de choses. Des fois, j'ai des bonnes idées, puis je les oublie, je les perds. Si j'ai pas mon téléphone à côté, je risque d'oublier des choses que j'aime bien. Par contre, les textes, je trouve c'est très laborieux parce que j'écris toujours beaucoup. Je sais pas, par chanson, je remplis des cahiers. Et après, le truc, c'est vraiment de rendre la chose très simple.
Donc, vous retravaillez beaucoup les textes.
Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, comme je fais partie d'une génération qui a été biberonnée à une rythmique anglo-saxonne, mais au texte français, c'est un mélange de biculture, en fait, d'essayer d'avoir des textes avec des rythmiques. Soit des choses pour la danse, soit des choses qui groovent. C'est important pour moi que ça tourne, même quand c'est des chansons lentes ou mélancoliques. Par exemple, j'écoutais tout à l'heure, quand on a écouté le premier jour, il y a une espèce de groove très lent comme ça, mais c'est une mécanique. C'est toujours important pour moi. Mettre des mots là-dedans, les faire sonner, c'est ça qui me prend le plus de temps.
J'ai découvert en préparant l'émission que c'était une reprise de Ready or Not.
De Sarah Cracknell, ouais. En fait. C'est une reprise, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai travaillé avec Saint-Etienne, on s'est fait un échange de chansons comme ça. Eux, ils ont repris Weekend at Rome, qui est devenu Is on the Phone, qui était un numéro 2 en Angleterre. C'est-à-dire que quand j'étais mort, j'étais numéro 2 en Angleterre.
Pourquoi ça peut servir?
Je faisais Top of the Pop, c'est tout ça. Non, c'était un truc de dingue quand on fait de la pop en France et que tout d'un coup, un pays qui s'ouvre à vous comme ça, enfin, je veux dire, c'est quand même des choses très importantes. Donc, moi, je reprenais des chansons de Saint-Etienne et eux reprenaient des chansons à moi. Et donc, il y a eu cette chanson de Sarah. Qui s'appelait Ready or Not, que j'ai adapté en français, qui est devenu le premier jour.
Nous sommes dimanche matin, juste pour le plaisir, on va écouter l'un de vos groupes préférés, le Velvet Underground, avec forcément Sunday Morning. Mmh.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning.
Étienne Daou dans Pour un oui, pour un son. Je sais pas, depuis quelques années, c'est vraiment, je profite d'être moi. Je dis ça parce que c'est une phrase d'Élie Médéros, qui est mon amie de longue date et de cœur. Et un jour, elle m'a dit, profite d'être toi. Et j'ai trouvé que c'était une phrase géniale. Et donc, j'essaie d'apprendre à profiter d'être moi. Et j'ai envie que ça dure.
Pour un oui. Pour un son.
Étienne Daou, vous avez dit sur scène, il n'y a ni passé ni futur, c'est merveilleux. Est-ce que c'est la partie de votre métier durant laquelle vous prenez le plus de plaisir?
Oui, parce que, comme tout le monde, quand je suis dans la vie, je suis entre le passé, le futur. C'est un métier de projection permanente. Donc je suis un peu coincé entre deux moments. Entre deux vies, celle d'avant, celle d'après, jamais dans ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, j'essaie, comme tout le monde, de dire « ici, maintenant ». J'aimerais bien...
Donc c'est une forme de méditation, quasiment.
Mais l'interview fait ça aussi, le « ici et maintenant ». Parce qu'on est dans le moment.
C'est quoi, c'est des moments
J'adore les interviews. Dans certaines interviews, je finis par découvrir des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Je trouve des réponses, parce qu'on me pose des questions. Des fois, je trouve des réponses à des choses que je fais un peu instinctivement, machinalement, sans m'en rendre compte.
C'est quoi, c'est être hyper concentré à un moment présent sur une tâche à accomplir?
Non, parce que quand on est dans l'instant, les choses se font. Voilà. Et sur scène, c'est comme ça. Sur scène, voilà... C'est un moment très spécial, il peut se passer n'importe quoi, les rideaux peuvent vous tomber sur la gueule pendant que vous chantez. Parfois pire.
C'est arrivé?
Non, pas à moi, mais il y a des gens, par exemple Curtis Mayfield, des gens comme ça, il y a des gens qui sont devenus paralysés parce qu'un truc leur est tombé sur la tronche.
D'où la peur des orages lors des festivals. Votre dernier album en 2013 s'appelle Les chansons de l'innocence retrouvée. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a retrouvé son innocence, si ce n'est à nouveau la reperdre?
À condition d'avoir perdu.
Vous l'aviez perdue si vous l'avez retrouvée?
Non.
Non,
non. Ah
bah comment vous avez fait pour la retrouver sans la perdre? Il va falloir expliquer ça.
C'est une histoire J'ai retrouvé un livre de William Blake qui s'appelle Les chants de l'innocence. Et quand je suis allé à Londres, cette fois-ci que j'ai loué ce petit appart, la première chose que j'ai vue dans la maison, c'est cette édition, qui était la même que celle que j'avais quand j'étais adolescent. L'album devait s'appeler Disco Noir, et je me suis dit, mais non, les chansons d'innocence retrouvées.
Voilà. D'accord. Je sais que vous avez parfois un rapport obsessionnel à la musique en tant qu'auditeur. Vous pouvez écouter une chanson pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est le cas en ce moment où le...
Oui.
Avec quoi ? Vous écoutez quoi ?
J'écoute Gweno, qui était la chanteuse des Pipettes. Elle a fait un album que j'adore. J'adore Tame Impala, vraiment. Depuis qu'ils ont commencé, là, vraiment, je suis vraiment un gros fan de leur production. J'adore Django aussi. Il y a pas mal de bonnes choses en ce moment.
Vous découvrez comment ?
J'écoute BBC Six tous les matins. Ils ont des playlists que j'écoute. Et puis, je lis le journal Magic aussi. Ils ont toujours des tas de chroniques, des tas de choses inconnues. Donc je cherche, j'écoute. Ça me plaît, enfin, j'ai toujours été comme ça.
Très attentif, très ouvert.
Passionné, quoi, surtout.
Vous rêvez de quoi pour l'avenir ?
Je sais pas, depuis quelques années, c'est vraiment, je profite d'être moi. Je dis ça parce que c'est une phrase d'Elie Medeiros, qui est mon amie de longue date et de cœur. Un jour, elle m'a dit, profite d'être toi. Et j'ai trouvé que c'était une phrase géniale. Et donc, j'essaie d'apprendre à profiter d'être moi. Et j'ai envie que ça dure.
Et ça marche pour le moment ?
Oui. Oui, vraiment. Enfin, j'ai toujours pris du plaisir parce que j'ai la chance de pouvoir durer. Parce que la chose la plus compliquée dans la musique, hein. Sauf que ça fait vraiment longtemps que je chante et que voilà, on est très peu d'élus sur la durée. Donc, il y a des tas de facteurs qui me sont étrangers. Il y a des tas de facteurs dont je suis acteur, j'espère, enfin, en tout cas, qui sont d'essayer de faire des bonnes chansons, en tout cas, et d'y consacrer beaucoup de temps et de passion. Après, c'est l'affaire des autres, ce sont les autres qui vous choisissent, c'est les autres qui vous élisent.
Merci beaucoup pour cet entretien, Étienne Dao.
Mais c'est moi, merci, puis bravo, je suis très impressionné par la préparation, c'est très rare, hein, franchement.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous serez en concert au 40e Paléo Festival Nyon. Ce sera le dimanche 26 juillet à 22h. Trois questions que l'on pose à chacun de nos invités pour terminer l'émission. À quelles questions répondez-vous toujours oui ?
Je ne peux pas répondre.
Bah, si. Vous n'êtes pas le premier qu'on voit rire silencieusement. On va retrouver une parade, mais... Si... D'autres l'ont dit avant vous. Hein.
Quel est le contraire du nom ?
À quelle question aimeriez-vous que l'on vous réponde toujours oui ?
Tu viens ?
Et quel est votre son préféré ?
Mon son préféré ? Alors, c'est un son que j'entendais quand j'étais enfant, quand j'étais chez mes grands-parents, c'est le son de la mer au loin. Quand je me réveillais le matin, j'entendais le son de la mer et c'était un truc, j'aurais pu rester dans mon lit pendant des heures. C'était une berceuse, un son fantastique. Et je l'ai toujours en tête.
Étienne Dao, votre dernier album s'appelle Les chansons de l'innocence retrouvée. Extrait, voici un nouveau printemps, Étienne Dao, avec à la guitare Neil Rogers.
Les lâches, frangins à la dérive. Aux merveilleux perdants, se débattant l'eau vive. Si sauvagement rejeté, nager
vers l'autre rive. Parvenir de l'autre côté et vivre vaille que vive. Apprendre à coups de crosse et de cheveux tondus. Vois les plaies qui scintillent au torse des vaincus. Mais si la cause est belle, peu importe le but. Dans la fraîcheur exquise, ce nouveau printemps, l'embarcation dérive. Si sauvagement rejetée de l'une à l'autre rive. Parvenir de l'autre côté, ailleurs, enfin revivre. À coups de crosse et de cheveux tondus. Vois les larmes scintiller aux paupières vaincues. Mais si la cause est belle, peu importe le but.
Peu importe le but.